Mobutu belema.
Obelema, obelema.
Mobutu belema.
Obelema, obelema.
Impero belema.
Obelema, obelema.
Allocution de son excellence le général de corps d'armée Mobutu Sese Seko Kuku Nguendu Wa Zabanga, président fondateur du Mouvement populaire de la Révolution et de la République du Zaïre, à la 28e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 4 octobre 1973, à New York. Le 4 octobre 1973, le général de corps d'armée Mobutu Sese Seko Kuku Nguendu Wa Zabanga, président fondateur du Mouvement populaire de la Révolution et de la République du Zaïre, s'adresse à la 28e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Avant lui, beaucoup d'hommes d'État importants y sont venus et ont parlé, souvent devant une assistance parsemée. Seul M. Henry Kissinger, secrétaire d'État du président Nixon, y aurait fait sale comble. C'était son premier discours aux Nations Unies. Les gens étaient certainement curieux, mais on ne sait pas si leur curiosité fut satisfaite. Par contre, ce que l'on sait avec certitude, c'est que toute l'Amérique était au courant de la présence du citoyen président Mobutu à New York. En effet, l'arrivée du citoyen président Mobutu dans le port new-yorkais était relatée par tous les grands journaux américains. Ceux-ci l'ont fait non par routine professionnelle, mais bien parce que cette arrivée constituait en elle-même un événement. Jamais l'Amérique n'avait assisté à une telle réception d'un chef d'État étranger par ses propres concitoyens. Toute la colonie zaïroise des États-Unis était venue accueillir son guide bien-aimé. Il est impossible de retracer ce que fut cet accueil qui se déroula dans une ambiance dont l'intensité et les couleurs sont difficiles à décrire. Il faut l'avoir vécu soi-même pour pouvoir saisir réellement cette ambiance. Vous connaissez l'ambiance que créent au Zaïre les militants et militantes du parti Voyage du Guide. À New York, tout se passa comme si l'on était au Zaïre. Les Américains virent un spectacle inhabituel pour eux. La plupart de leurs journaux l'ont qualifié de fancifère, c'est-à-dire de fête populaire. Mais en réalité, ce fut un rassemblement authentiquement zaïrois. Et ce n'était qu'un petit échantillon de ce qu'est l'animation spontanée que créent les militants et militantes du parti à l'occasion des rassemblements populaires. Le 4 octobre 1973 donc, à la reprise de la séance de travail de l'Assemblée générale, son président, M. Benitez, Équateur, invite le citoyen président Mobutu Sese Seko à prendre la parole. Il ne peut cacher son admiration pour le citoyen président Mobutu et le Zaïre. Nous connaissons tous le labeur extraordinaire que vous avez accompli pour assurer le progrès et la transformation de votre patrie et nous éprouvons une grande admiration pour votre pays, pour votre peuple et pour votre personne, a dit en substance le président de l'Assemblée générale de l'ONU. La salle est vraiment comble. Toutes les délégations sont présentes. Elles savent toutes que le citoyen président Mobutu Sese Seko va faire un important discours. Toutes sont intriguées par le silence observé volontairement par le citoyen président Mobutu à toutes les conférences internationales auxquelles il a assisté, que ce soit à Addis Abeba à l'OUA, tout comme à Alger chez les non-alignés. En fait, elles ne se sont pas trompées. Ce fut un discours très important. Mais pour nous, Zaïrois et Zaïroises, ce discours est plus qu'important. Il est historique. Il l'est parce que, par son contenu et sa clarté, après avoir rétabli le lien historique fondamental avec notre vrai passé, il définit la façon dont le peuple zaïrois doit œuvrer dans ses rapports avec lui-même et les autres peuples du monde afin de reproduire harmonieusement sa vie selon ses propres conditions et ses propres moyens, c'est-à-dire selon son authenticité. C'est cette authenticité, une véritable conception du monde, qui guide le peuple zaïrois regroupé autour de son chef, le citoyen président Mobutu Sese Seko Kuku Nguendu Wa Zabanga. À la tribune des Nations Unies, le citoyen président Mobutu Sese Seko a à nouveau défini l'authenticité. Il l'a fait avec une éloquence vibrante qui était régulièrement ponctuée par les applaudissements des délégués. Le citoyen président Mobutu a proclamé tout haut le refus du peuple zaïrois d'épouser aveuglément les idéologies importées. Dans son discours, le citoyen président Mobutu a abordé tous les grands thèmes qui concernent notre vie à nous tous, zaïrois et zaïroises. Notons au passage la reconstitution de la vérité historique sur notre passé. Pour la première fois dans notre pays, la nature vraie de notre passé est rétablie avec un courage et une rigueur scientifique indéniables. Nous devons en être fiers. Pour la première fois, à la face du monde, le vrai contexte historique africain est défini selon la réalité vécue, aussi amère fut-elle. Désormais, nous saurons que nos ancêtres ont été transformés en esclaves par les Blancs venus de l'Occident et que nos ancêtres n'étaient pas considérés par les Blancs comme des êtres humains, mais bien comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. Désormais, nous saurons que nos frères arabes, que les Blancs ont longtemps accusés d'esclavagistes, n'étaient que des courtiers et des commissionnaires à la solde des Blancs, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Désormais, nous saurons qu'au XIXe siècle, avec la colonisation, c'était le début du processus de notre déshumanisation et l'installation de l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc. Dans la colonie, la différenciation sociale s'est faite entre noir et blanc. Parce que tu étais blanc, tu étais exploiteur. Parce que tu étais noir, tu étais exploité. Voilà cette brutale réalité qu'est le colonialisme que certains blancs veulent encore faire perpétuer, même lorsque l'ouragan de la liberté les a boutés hors d'Afrique. Ces retardataires ont même tenté, avec l'aide des mercenaires blancs, de reconquérir certains pays d'Afrique. Mais grâce à la résistance des peuples africains, ils ont échoué. Ils se sont retranchés en Afrique du Sud, en Rhodésie, en Angola, en Mozambique et en Guinée-Bissau. Le colonialisme blanc est à extirper d'Afrique. Aussi, tous les Aïrois et Aïroises se sentent mobilisés pour combattre les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. Tout sera mis en œuvre pour que l'exploitation du noir sur le sol de ses ancêtres par l'étranger blanc cesse. Le discours charte de l'authenticité pour la paix et le progrès de l'humanité, prononcé aux Nations Unies par le citoyen président, contient également d'autres thèmes importants que vous allez pouvoir suivre en écoutant le général de corps d'armée, Mobutu Sese Seko Kuku Nguendu Wa Zabanga, président fondateur du mouvement populaire de la Révolution et de la République du Zaïre.
Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole à cette tribune. Je ne peux m'empêcher en outre de vous féliciter au nom des ressortissants des pays appelés communément du tiers-monde de votre brillante élection en qualité de président de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je ne doute pas que grâce à vos qualités d'homme d'État confirmé, vous assumerez ces lourdes fonctions avec compétence, à la grande satisfaction de cette Assemblée et à la fierté des pays dits du tiers-monde. En lisant votre biographie, j'éprouve aussi un grand plaisir et une grande fierté de savoir que vous êtes un ancien journaliste comme moi-même. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le peuple zaïrois, regroupé tout entier au sein du mouvement populaire de la Révolution, notre parti national, m'a chargé de présenter, à travers cette auguste assemblée, les remerciements des citoyennes zaïroises et des citoyens zaïrois à l'Organisation des Nations Unies. Si une infime minorité des pays membres de cette organisation avait refusé de participer à l'opération Congo à l'époque, la grande majorité a cependant mis spontanément des troupes à sa disposition ou est intervenue financièrement pour cette opération, ce qui a permis de maintenir la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Aux uns et aux autres, à travers l'Organisation des Nations Unies, le Zaïre dit grand merci. Je saisis également cette occasion pour rendre hommage aux secrétaires généraux de l'Organisation mondiale qui en sont véritablement la cheville ouvrière et qui en assure la gestion journalière. Mes pensées vont spécialement à M. Daga Marchol, mort en service commandé pour notre importante organisation et pour la République du Zaïre. Mes hommages s'adressent ensuite à You Tant, son successeur, qui s'est dépensé corps et âme pour le maintien de la paix dans le monde et qui s'est montré particulièrement attentif à la cause zaïroise. Je me félicite enfin de la désignation de M. Kurt Waldheim en qualité de secrétaire général de l'ONU, à qui je souhaite une carrière aussi brillante que fructueuse. Monsieur le Président, tout le monde sait quelles ont été les circonstances d'accession de mon pays à l'indépendance. En 1960, le Zaïre, qui s'appelait alors Congo, s'est effondré en une nuit comme un château de cartes. Plusieurs experts en matière de colonisation avaient conclu hâtivement non seulement à une sorte d'incapacité congénitale du peuple zaïrois, mais également démontré par là que l'indépendance des pays neufs était une mauvaise opération. Nous étions présumés et jugés incapables de nous gouverner sans l'aide des colonisateurs. Mais, à notre avis, cet accident du Zaïre était prévisible, malgré que, dans l'acte de Berlin de 1885, le bassin du fleuve Zaïre était ouvert au monde entier. Le Zaïre lui-même est resté isolé du monde, donc en marge des idées progressistes. De plus, à l'accession du Zaïre à l'indépendance, mon pays, 80 fois plus grand que son ancienne métropole, comptait moins de 10 cadres nationaux ayant terminé leurs études universitaires. Et dans l'administration, l'armée, le secteur privé, il n'y avait pas un seul cadre zaïrois. C'est pourquoi nous avons vécu de 1960 à 1965 une époque néfaste pour notre peuple. Et nous sommes obligés de reconnaître que l'anarchie, le chaos, le désordre, l'inconscience et l'incapacité régnaient en maître au Zaïre. Certains d'entre vous consultent peut-être le dictionnaire pour connaître la définition du mot « anarchie », alors qu'au Zaïre, nous l'avons tellement vécu que nombre de personnes croyaient que le mot « anarchie » était une invention zaïroise. C'est pourquoi tout désordre dans n'importe quelle partie du monde était baptisé du nom de congolisation. Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Les uns voulaient nous recoloniser économiquement, tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Le Zaïre, qui est passé d'un chaos indescriptible à un pays organisé et gouverné, a fini par reconnaître, à partir de sa malheureuse expérience, ses véritables amis. L'expérience zaïroise s'est forgée à partir d'une philosophie politique que nous appelons l'authenticité. Celle-ci est une prise de conscience du peuple zaïrois de recourir à ses propres sources, de chercher les valeurs de ses ancêtres afin d'en apprécier celles qui contribuent à son développement harmonieux et naturel. C'est le refus du peuple zaïrois d'épouser aveuglément les idéologies importées. C'est l'affirmation de l'homme zaïrois ou de l'homme tout court, là où il est, tel qu'il est, avec ses structures mentales et sociales propres. Le recours à l'authenticité n'est pas un nationalisme étroit, un retour aveugle au passé, mais il est, au contraire, un instrument de paix entre les nations, une condition d'existence entre les peuples, une plateforme pour la coopération entre les États. Car l'authenticité est non seulement une connaissance approfondie de sa propre culture, mais aussi un respect du patrimoine culturel d'autrui. C'est ainsi que fort de cette expérience, nous croyons modestement que le Zaïre peut donner à la face du monde sa propre interprétation des problèmes qui se posent à nous tous. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique, car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leur substance fondamentale, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques, comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre, au XIXe siècle, des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépecèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ses négriers. Le Noir n'a plus à échapper aux razzia, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir, donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. À partir de cette période,